réveil, le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Retour sur la grève des enseignants hier. Quelle suite donner à leur mobilisation ? Reportage dans le cortège parisien.
Les agriculteurs, eux, ont commencé à lever les barrages après de nouvelles annonces hier de Gabriel Attal, mais la Confédération paysanne n'est pas du même avis.
Et nous irons dans le nord de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie, où les habitants redoutent une nouvelle invasion. Les syndicats d'enseignants ont l'intention de maintenir la pression après une journée de grève hier pour réclamer de meilleurs salaires et défendre l'école publique face à une nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, empêtrée dans les polémiques. D'après le ministère, au total, 20% d'enseignants environ ont cessé le travail hier. Le SNES-FSU a estimé le taux de grévistes dans les collèges et lycées à 47%, 40% selon le SNUIPP dans les écoles maternelles et élémentaires. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté. À Paris, le reportage d'Hakim Kasmi.
Maintenir la pression sur le ministère de l'Éducation, sans pour autant pénaliser financièrement les enseignants avec un nouveau mouvement de grève dès la semaine prochaine, telle sera l'équation que devront résoudre les syndicats, ce qui pourrait passer ponctuellement par des actions locales, comme par exemple des blocages, mais aussi par le soutien des parlementaires, selon Elisabeth Alain Moreno, la secrétaire générale du SEUNSA.
On a aussi un travail à faire auprès des parlementaires, ça c'est évident, parce que c'est bien à travers aussi le législateur. C'est à travers aussi la pression qui peut être mise par des territoires. Je prends l'exemple de l'uniforme. Il y a des municipalités qui se sont jetées dans le dispositif, mais d'autres qui le rejettent. Et donc, on a aussi ces élus-là, locaux, qui partagent des vraies convictions pour les élèves et qui souhaitent s'associer. Et eux, par contre, on a besoin d'eux. Ils ont un pouvoir réel dans la société pour pouvoir peser.
Une poursuite des actions qui devra également passer par le soutien des parents d'élèves, selon Marian, professeur d'anglais dans un collège de Levallois, en région parisienne.
Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas de tracteur, donc c'est plus difficile de se faire entendre. En tous les cas, on va user tous les moyens qu'on a, donc ça peut être dans les établissements, par les conseils d'administration, avec les fédérations de parents d'élèves, interpeller aussi les parents d'élèves sur les dangers que représente ce choc des savoirs, avec une école du tri social qui va être organisée, qui va encore plus renforcer la ségrégation scolaire. On a beaucoup parlé de la ségrégation scolaire entre le public et le privé, grâce à notre nouvelle ministre, qui s'est illustrée par des propos très méprisants sur l'école publique. Cette réforme, elle va vraiment toucher aussi les élèves, et donc les parents doivent aussi se mobiliser à nos côtés. Et c'est peut-être comme ça qu'on pourra se faire entendre.
En attendant, le SNES a lancé dès hier soir auprès de ses adhérents une consultation sur la suite des actions à mener, dont les résultats pourraient être connus dans les prochains jours.
Au fur et à mesure, des agriculteurs lèvent leurs barrages. Hier après-midi, les syndicats majoritaires FNSEA et Jeunes Agriculteurs, ainsi que la coordination rurale, se sont accordés et vont changer leur mode d'action. Ils ont obtenu de nouvelles mesures du gouvernement, dont 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs, ou la suspension du plan Ecophyto sur la réduction des pesticides. Il est aussi question de renforcer les lois Egalim pour éviter que les producteurs ne fassent les frais de la guerre des prix. Mais la Confédération paysanne, elle, reste mobilisée. Elle estime que le gouvernement ne répond pas à sa revendication principale sur le revenu. Stéphane Gallet, l'un des secrétaires nationaux du syndicat.
Pour l'instant, on a toujours des réponses conjoncturelles, mais pas des réponses structurelles. En fait, on est toujours sur une accélération vers la compétitivité qui risque d'agrandir les fermes, qui risque de faire disparaître les paysans et les paysannes, quoi. On n'a absolument pas là de réponse concrète à la colère des paysans et des paysannes dans les campagnes. Par exemple, nous, on réclamait la fin des accords de libre-échange, mais vraiment, quoi, que voilà, on sorte de la libre concurrence. On réclamait aussi vraiment des prix planchers qui couvrent à la fois les coûts de production, le revenu et aussi notre protection sociale. Et ça, on ne l'a pas obtenu de la part du gouvernement. Tant qu'on n'est pas là-dessus, eh bien, effectivement, on poursuit l'appel à mobilisation.
Dans une logique d'opposition un petit peu historique entre la Confédération paysanne et la FNSEA, on entend beaucoup dire que la FNSEA aurait, entre guillemets, gagné. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Elle n'a rien gagné, en tout cas, dans son rôle de syndicat. Le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les paysans et les paysannes. Là, on n'y est pas du tout, en fait. Ils n'ont pas du tout défendu les paysans et les paysannes. On n'a pas progressé sur la défense du revenu. On n'est pas sorti du désaccord de libre-échange. Et puis, on accélère sur la compétitivité, encore une fois. Une piste, peut-être, de contrôle des marchés, de contrôle des volumes, qui permettrait à tout le monde de pouvoir espérer vivre de son métier. Mais s'ils sortent grandis de ça, je ne comprends pas, en fait.
Stéphane Gallet de la Confédération paysanne, il répondait à Mathilde Cariou. Le sujet était inévitable hier à Bruxelles en marge d'un sommet européen. Emmanuel Macron a notamment réclamé des simplifications tangibles de la PAC, la politique agricole commune, et une force sanitaire spéciale pour éviter la concurrence déloyale entre États membres.
6h30. 10h35 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre, un sommet européen officiellement consacré à l'Ukraine et les dirigeants ont trouvé un accord sur une aide de 50 milliards à Kiev.
Oui, jusque-là, elle était bloquée par la Hongrie. Sur le front, la situation est toujours aussi tendue. Hier, dans le nord de l'Ukraine, la région de Soumy, il y a eu plus de 200 tirs d'obus qui sont tombés sur les villages frontaliers avec la Russie, avec encore aujourd'hui la peur d'une nouvelle invasion terrestre. Sur place, Vanessa Descoureaux.
Oleg n'est pas du genre à gaspiller des forces sur les trottoirs enneigés de son village. Il pose son gros sac en cuir sur une luche qu'il traîne. La Russie est à 9 km de chez lui, c'est-à-dire à portée d'artillerie.
Tous les papiers d'identité sont bien rangés. J'ai même préparé des slips, des chaussettes et une chemise de rechange. Pas trop d'affaires et bien sûr quelques provisions. Ils sont imprévisibles.
Sur son portable, il montre spontanément une vidéo. C'est dans la cour d'une maison du village que tombe une roquette Grad. Il y a quelques semaines, c'est cette fois une entreprise qui a été touchée. Oleg rend visite à sa sœur cadette, Svetlana. Les manches relevées alors que le thermomètre est en dessous de zéro. Elle assure qu'elle a confiance en son armée.
Qui sait, tout peut arriver. Les Russes ont quand même plus d'hommes que nous. Les nôtres sont plutôt dans l'est, à Avdivka. Là-bas, c'est effrayant et les Russes savent que nos troupes ne sont pas beaucoup déployées par ici.
Les soldats ukrainiens dorment dans des maisons abandonnées par leurs habitants. Il n'y a plus de rassemblement de militaires dans un seul endroit. L'école où ils étaient hébergés a été bombardée, vraisemblablement à cause d'un informateur.
Vanessa Descoro avec Jérémy Tuil et Yachar Fazilov. Focus sur l'Italie ce matin sur France Culture à l'approche des élections européennes. À suivre des interviews, des reportages dès les enjeux internationaux dans quelques minutes à 6h40. Si le pays fait souvent l'actualité pour sa politique intérieure agitée, c'est aussi un membre européen historique, Pierre Benazet.
À l'instar des Français, les Italiens sont un peu blasés de cette Europe qu'ils ont vu grandir depuis Alcide de Gasperi, un des pères fondateurs. Depuis la création de cette communauté économique devenue Union européenne, l'Italie a compté pas moins de 58 gouvernements, un par an en moyenne. Et cette instabilité politique interne s'accompagne d'une implication conséquente de dirigeants italiens de premier plan sur la scène politique européenne. Sur les 20 dernières années, 4 présidents du Conseil ont aussi été commissaires européens, président de la Commission et président de la Banque centrale européenne. L'Italie, c'est le 3e pays de l'UE en nombre d'habitants, 58 millions d'Italiens. C'est aussi la 3e économie et le 2e taux de dette publique après la Grèce, 141% du PIB. Et c'est enfin la principale bénéficiaire du plan de relance européen. Un pays qui est par ailleurs en première ligne pour l'arrivée des migrants et qui a enfin obtenu en 2023 la solidarité européenne réclamée depuis 20 ans pour y faire face. L'instabilité politique italienne lui donne la réputation d'un partenaire peu fiable dans la durée pour les alliances européennes internes. Mais même si l'Italie a de ce fait toujours été en retrait par rapport à la domination franco-allemande, elle parvient à marquer sa place au premier rang de la classe européenne. Vu de Bruxelles, l'actuelle première ministre Giorgia Meloni ne fait pas exception, puisqu'après une campagne électorale plutôt europhile, elle a fait partie des soutiens actifs de l'Ukraine et a été à l'origine de l'accord migratoire européen avec la Tunisie.
Pierre Benazet, Météo France prévoit aujourd'hui du soleil dans le sud-est, du gris ailleurs, pas plus de 11 degrés cet après-midi à Paris, jusqu'à 18 à Montpellier.